Europe 1. Jusqu'à 10h, c'est Patrick Cohen pour cette arrivée demain sur Europe 1.
Bonjour Christophe Anodibio.
Bonjour Patrick Cohen.
Directeur adjoint de la rédaction du Point, vous venez d'interviewer Woody Allen à la veille de la parution en France de ses mémoires, ce livre qu'a failli ne pas sortir parce que sa maison d'édition américaine a cédé aux protestations de ses employés. On va y revenir. Mais d'abord, elles sont comment ces mémoires ?
Ah ben, je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment lui, c'est sa voix, c'est tout à fait romanesque, un roman d'initiation, c'est toute sa jeunesse, ses débuts, jusqu'à aujourd'hui. C'est un roman philosophique parce qu'il y a les maximes de Woody Allen du genre « être misanthrope, ça a du bon, les gens ne vous déçoivent jamais », vous voyez ce genre de choses. C'est un roman noir, trash, policier quand il parle de l'affaire, et c'est tout à fait plaisant, instructif, et aussi assez vengeur quand même, parce qu'il mâche pas ses mots, il rend surtout vraiment coup sur coup par rapport à l'affaire Miafaro et les accusations qui lui sont tombées dessus.
Ces récits de jeunesse où il apparaît comme dans ses films, faux intello, dragueur maladroit.
Oui, alors c'est assez génial ça, parce que c'est vraiment aussi un hommage à la culture, hein, ce livre. Woody Allen était quelqu'un qui se présente comme un culte, et en fait, il a été conduit à regarder les grands films, à lire les grands classiques, à lire Kafka, à lire Tolstoy, tout simplement parce qu'il était amoureux de filles très très belles, très très sexy, très très intelligentes, très très profondes, et il avait pas envie d'être un gars ridicule, et après un certain nombre de râteaux, il s'est dit, faut que j'ai lu les grands auteurs pour paraître moins stupide, et dès lors, sa vie érotique et existentielle et artistique a pris un autre tour beaucoup plus satisfaisant. En tout cas, c'est lui qui le dit.
Ouais, il vous dit « j'ai rien fait d'extraordinaire, j'ai eu de la chance ». Et aussi, j'ai toujours vu ma vie sous un prisme comique et vous avez souligné à quel point c'était agréable et drôle à lire cette vie. Alors, donc, avec des pages consacrées à l'affaire Woody Allen, celle qui lui vaut cet opprobre, malgré l'enquête judiciaire qui a conclu que non, il n'avait pas commis d'abus sexuels sur sa fille adoptive Dylan, il y a plus de 30 ans. Il explique cela par la vengeance d'une femme.
Oui, il parle d'elle. D'ailleurs, il cite une phrase terrible. C'est-à-dire que d'ailleurs, il faut rappeler un certain nombre de choses aussi qui sont toujours un petit peu dans le brouillard, parce que les gens racontent aussi n'importe quoi. Sunny n'était pas la fille de Woody Allen. Sunny n'était pas mineure quand ils ont eu une histoire. Et en fait, quand Mia Farrow découvre justement la liaison qu'il a avec sa fille adoptive Sunny, avec la fille adoptive de Mia Farrow, eh bien, elle devient absolument folle de rage. Et il y a cette phrase qui est rapportée, « Il a voulu me prendre ma fille, je vais lui prendre la sienne ». Donc il est extraordinairement pas tendre avec Mia Farrow, et il raconte un certain nombre de scènes qui vont faire tomber de leur chaise un certain nombre de gens qui n'ont jamais voulu entendre ou même lui laisser Woody Allen s'expliquer et donner sa version, qui est quand même la version de l'accusé, qu'il est quand même bon et sensé et humain d'entendre, en tout cas quand on instruit un procès contre quelqu'un.
Ce qui était étonnant dans l'interview qu'il vous a accordé, c'est cette forme de détachement qu'il manifeste vis-à-vis de cette histoire. Il se dit étonné des réactions du milieu du cinéma, mais pas accablé, pas blessé.
Non, pas accablé. Alors, il faut rappeler aussi, quand on est le milieu du cinéma, il a eu aussi un certain nombre de témoignages, de gens qui ont été de son côté, qui sont des gens de poids. Hein, quand on parle d'Almodovar, quand on parle de Javier Bardem, quand on parle d'un certain nombre même de cinéastes américains. Donc, effectivement, il explique un mécanisme qui fait peur, d'ailleurs. Et il cite un certain nombre de gens qui disent « Tu vois, Woody, moi, en fait, je pense que t'as rien fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais tu comprends ». Je peux pas le dire. Si je le dis, ma carrière est foutue. Et il a cette formule très très drôle, Woody Allen. Il dit « Dire qu'on ne voulait pas tourner avec moi était aussi branché que la dernière formule de régime à base de choux calé. » Voilà. C'était devenu tendance de dire à Hollywood de dire qu'on voulait pas tourner avec lui. Alors même que tous ces gens qui refusaient avaient rêvé de ça toute leur vie. Mais il dit, ça manquait pas d'ironie, puisqu'en fait, ce que me disent ces gens qui disent bah, « je peux pas te soutenir ouvertement bah, », c'est effectivement les raisons qu'avançaient les femmes qui avaient été harcelées pour expliquer pourquoi elles n'avaient pas dénoncé leur harceleur. Car leur carrière en aurait souffert. Vous vous souvenez, c'était l'argument au moment de l'affaire Weinstein. Donc il est très, vous avez raison, non pas détaché, parce qu'on sent quand même qu'il a accusé le coup, mais d'une part, il est très heureux, en ménage, avec Sunny, avec ses filles. Il est plein de projets et il est lucide. Et ça, c'est assez, d'ailleurs, assez tragique, je trouve. Moi, c'est ce qui m'a surpris quand j'ai eu au téléphone, c'est que il se fiche totalement. Alors après, c'est peut-être une pause aussi, mais de la postérité. Quand je lui demande, mais est-ce que finalement, c'est pas gênant pour la suite qu'on retienne de Woody Allen, bah à la fois les films, mais aussi ses accusations, qui certes ont été tranchées par la justice, mais qui continuent à ressurgir. Il dit, je me fiche totalement que la postérité retienne de moi que j'étais un grand cinéaste ou un pédophile. On peut dire que je suis un serial killer ou un braqueur de banque. De toute façon, mes films y sont faits. Shakespeare, on a beau le fêter comme un roi, etc. Shakespeare, il est mort, moi je serai mort. Et il a cette expression qui est terrible. De toute façon, la chasse d'os tire pour tout le monde. Et puis après, il varie un peu dans l'expression, c'est un peu plus poétique. Les lumières s'éteignent, et de toute façon, on n'est pas là pour le voir.
Et il pense, c'est son regret, son plus grand regret, ne pas avoir fait de grands films à l'image de ceux qu'il admirait quand il était adolescent ou jeune adulte. D'ailleurs, c'est là où il y a de la nostalgie, hein, c'est sur la culture dominante qui a envahi nos écrans, sur l'effacement du cinéma d'auteur. Truffaut, René, Antonioni, Kazan, tous les types que je voulais impressionner quand j'étais plus jeune, sont tombés dans l'abîme qui semble s'ouvrir devant nous, écrit-il.
En fait, il y a, moi, ce que j'adore dans ce livre, et ce qu'il dit dans l'interview, c'est qu'en fait, on sent très bien, et c'est toujours ce qui m'a frappé avec les gens qui sont vraiment de grands, grands artistes. C'est-à-dire que la culture et pas un vernis, la culture est presque une érotique. Au fond, on aime les grands films, on aime la grande littérature parce que ça nous fait du bien, parce que c'est drôle, parce que c'est rebelle, parce que c'est mordant, parce que ça fait jouir de la vie d'une façon beaucoup plus intense. Et en fait, lui, on sent que tous ces grands auteurs qu'il a lus et tous ces grands réalisateur qu'il a connu, il parle beaucoup de Tennessee Williams, par exemple. La chose qui lui fait plaisir, c'est quand Tennessee Williams à New York lui dit « On me dit que vous êtes un grand artiste, Woody Allen. » Et là, c'est le truc qui compte presque le plus dans ses mémoires. Et en fait, il s'aperçoit que l'époque est terminée et que les studios pensent juste « Il est même plus question de cinéma. » C'est pas un ennemi du box-office. Il parle souvent du box-office, Woody Allen. Mais simplement, il expliquait qu'avant, il y avait une demi-mesure. C'est-à-dire que le box-office comptait, mais il fallait que ça ait du sens. Et il dit aujourd'hui, il parle d'un abîme. Un abîme qui attend le cinéma, on est déjà un peu dedans, qui fait qu'on veut du profit à court terme, on veut que le box-office, et le cinéma n'est plus un événement. Les blockbusters ne sont plus un événement en dehors de la sphère commerciale. Ça a plus de sens, ça a plus de profondeur. Et il rend vraiment, vraiment hommage aux actrices qu'il est loin de traiter simplement comme des corps, comme des visages. Diane Keaton, portrait formidable. Donc, c'est à la fois lucide, mais quand on lit ça et quand on lit le livre, on n'a qu'une seule envie, de créer, de faire des films, de faire des livres. Et moi, j'adore, et j'ai terminé d'ailleurs les extraits qu'on publie dans Le Point par ça. C'est ça, c'est un peu comme une lettre à un jeune cinéaste.
Ouais, c'est conseil, ouais.
Bah, il dit, et c'est pour ça que c'est très très humain et très terre à terre et en même temps céleste. Il dit, restez concentrés sur vos tomates. Appliquez-vous, bossez dur, prenez plaisir au travail. Si vous n'en approuvez pas à changer de métier, ne cherchez pas à imiter les autres. Vous avez votre propre idée de ce qui est drôle. Vous connaissez le but à atteindre. Pas besoin d'en savoir plus. Vous avez une vision. Efforcez-vous de la concrétiser.
Merci beaucoup, Christophe Naudibio. Votre interview à lire dans le dernier numéro du Point et les mémoires de Woody Allen. Rappelez-moi le titre, c'est Soit dit en passant.
Soit dit en passant, ça sort le 2 juin, donc il faut encore patienter. On peut le lire en anglais déjà. Je voudrais juste dire un petit mot, sur l'éditrice américaine, oui. Janet Seaver, qui a, contre vents et marées, décidé de publier ce livre et qui le fait aussi par fidélité envers son mari Dick Seaver, qui est l'homme qui a publié en fait les plus grands infréquentables. Et elle l'a dit, moi, quand on m'a dit que Woody Allen pourrait pas sortir son livre, je suis monté sur mon cheval et je suis parti à la guerre. Et en fait, si ce livre sort, c'est aussi grâce à elle, chez Arcade Publishing. C'est une dame qui a 80 ans et qui a envie de combattre pour qu'au moins on puisse entendre la parole de ceux qu'on veut faire taire.
Merci à vous, Christophe Naudibio. Merci.